travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Le Conseil constitutionnel a enregistré à ce jour 593 parrainages pour ma candidature. Je suis donc candidate à l'élection présidentielle. Mais attention quand même à ne pas trop s'enthousiasmer. Je resterai une petite candidate aux yeux des médias. Parce que mis à part les 15 derniers jours où il existe une stricte égalité de temps de parole, jusque-là, les grands médias peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils peuvent organiser deux campagnes parallèles, une pour les grands candidats qui ont la possibilité de s'exprimer en long, en large, en travers, et puis une autre pour les petits candidats qui n'auront droit qu'à quelques miettes d'interview distillées par-ci, par-là. C'est en contradiction avec toutes les déclarations sur la neutralité et le pluralisme de la plupart des journalistes, mais c'est comme ça. Ça s'appelle, d'après le PSA, d'après le CSA, le principe de l'équité. La médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote données par les sondages. Autant dire que chaque chaîne peut faire à peu près ce qu'elle veut. Les milliardaires, comme Bolloré, Bouygues ou Drahi, qui ont acheté des chaînes de télé et des journaux, peuvent donc se payer des campagnes électorales sur mesure et ils peuvent décider de quel candidat aura ou non la parole. Ils ne s'en privent pas, mais je peux vous dire que ce n'est pas beaucoup mieux sur les chaînes et les télévisions, enfin sur les chaînes et les radios publiques. Alors oui, le système médiatique est bien verrouillé, mais il ne faut pas s'en étonner. Les travailleurs qui manifestent ou sont en grève ne sont pas mieux traités. Jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent leur pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on vérifie qu'il est réellement dans le système et qu'il ne l'est pas. Alors d'un certain côté, pour nous, c'est une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie de ce paysage politique. Nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste et nous n'aspirons pas à en faire partie. Et si je participe, d'ailleurs, à cette élection, si je participe à cette élection présidentielle, ce n'est pas pour jouer le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités peuvent le faire et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société à condition qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Et dans cette élection, nous pouvons faire avancer ce combat, et c'est pourquoi j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. Je les appelle à affirmer une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Je les appelle à faire un vote de conscience et de combativité ouvrière. Les commentateurs politiques parlent d'une campagne où tout est possible. Et cette campagne offre en effet un spectacle assez inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon assez inattendue dans cette campagne. Et en plus de ce casting un peu renouvelé, on a droit à des rebondissements, à des désistements, à des ralliements, à des tractations d'appareils et puis bien sûr à des démêlés judiciaires. Alors oui, cette campagne, avec ses coups de théâtre, ses hommes politiques mis en examen, a de quoi surprendre. Mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système politique à bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité ceux qui gouvernent depuis des décennies. Et elle a eu raison, finalement, de ce ronron de l'alternance gauche-droite. Alors oui, il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira sa majorité parlementaire. Dans les mois à venir, le système politique peut très bien connaître une crise. Mais il y a une chose certaine dans tout ce méli-mélo, c'est que les affaires de la bourgeoisie seront bien gardées. Quelles que soient les péripéties politiciennes, le grand capital imposera sa politique et il trouvera le prochain président de la République à ses pieds parce que tous ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée sont les serviteurs dévoués de la bourgeoisie. Prenez Fillon. Fillon est le porte-parole par excellence du grand patronat. Et il lui ressemble d'ailleurs, comme deux gouttes d'eau. Son arrogance, ses leçons de morale du genre « faites ce que je vous dis, pas ce que je fais », c'est l'arrogance et c'est le mépris de la bourgeoisie pour le monde ouvrier. Quant à son programme, c'est simple, il a repris l'intégralité de la politique du MEDEF, la fin des 35 heures, la hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Au bout du compte, il déclare la guerre aux travailleurs. Comme Fillon, mais de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches, originales. Mais il faut quand même se souvenir que Macron, c'est le travail du dimanche. C'est la remise des bus sur les routes. C'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés, sans contrat de travail et sans protection sociale. Bien sûr, ils sont libres, oui, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte de grands groupes capitalistes. Et quel est le programme de Macron? Eh bien, la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy, puis par Hollande pendant 10 ans. Avec d'un côté la pérennisation des cadeaux au patronat, baisse de l'impôt sur la fortune, continuation du crédit d'impôt compétitivité emploi, et de l'autre la suppression de postes de fonctionnaires. Pour Macron, c'est 120 000 postes en moins. C'est l'augmentation de la CSG, c'est 15 milliards de moins sur l'assurance maladie et 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Quant à Le Pen, eh bien Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Elle aussi, elle prévoit des suppressions de postes dans la fonction publique. Et elle prévoit aussi des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et 80 euros de primes pour augmenter les plus bas revenus. Et où veut-elle prendre l'argent? Eh bien sur ce que coûterait l'immigration. Elle veut s'attaquer aux migrants qui fuient la guerre ou une dictature féroce. Elle veut s'en prendre à des travailleurs, parfois ici depuis 5-10 ans, en taxant leur contrat de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants. Autrement dit, elle veut s'en prendre à des ouvriers, à des intérimaires, à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Et elle brandit exactement la même politique que le grand patronat, c'est diviser pour régner. Alors, aux copains de boulot, aux voisins, aux parents qui est tenté par le vote Front National, eh bien nous pouvons lui dire, laisse ce vote aux racistes, laisse ce vote aux grenouilles de bénitier, aux nostalgiques de la France à papa, laisse ce vote à tous ceux qui accusent les chômeurs d'être des assistés ou qui pensent que les ouvriers ne travaillent pas assez, et toi, vote pour tes intérêts de classe, vote pour ton camp. À gauche, Hamon veut faire entendre une toute autre musique. Pour faire oublier le bilan des années Hollande, il s'est singularisé avec son idée de revenu universel. Mais regardez aujourd'hui comment ce revenu est de moins en moins universel et je peux dire même de moins en moins un revenu. Et quant à cette idée, ce principe de revenu universel à 750 euros, cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais quand même, le fait de toucher 750 euros, ce qui n'est même plus aujourd'hui dans son programme, je le redis, le fait de toucher 750 euros par mois pour compenser le fait de ne pas avoir de boulot, eh bien non, cela ne fait rêver aucun travailleur. Parce que un travail, c'est non seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Et il n'y a que chez les bourgeois qu'on est fier de rien faire, qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Mais pour les travailleurs, ça ne marche pas comme ça. Et puis, regardez comment Hamon a du mal à trouver de quoi financer cette mesure. Pourtant, il explique que le gouvernement a dépensé à tort et à travers 41 milliards au travers du CICE. Il explique que ce CICE a été mal affecté et qu'il aurait fallu le conditionner. Mais il ne demande pas aux entreprises qui ont empoché l'argent de rembourser ou de rendre des comptes. Ce serait pourtant logique. Quand il y a eu tromperie sur la marchandise, on demande bien à être remboursé. Eh bien ça, Hamon ne l'imagine même pas. Et pourquoi ? Bien parce qu'il ne veut rien imposer au grand patronat. Il ne veut pas le contraindre à quoi que ce soit et surtout pas à payer. Et en cela, il est le digne héritier du Parti socialiste. Alors, quand on appartient au monde du travail, voter pour Fillon, Le Pen, Macron ou Hamon, eh bien c'est voter contre son camp et c'est tendre le bâton pour se faire battre. Aujourd'hui, tout cela s'oppose. Ils s'envoient des noms d'oiseaux, ils se combattent. Mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Alors toute leur politique consiste à les amadouer, à les bichonner. Et il faut toujours que les travailleurs se plient et acceptent de faire les quatre volontés patronales. Eh bien, je suis candidate pour dire l'inverse. Je suis candidate pour dire que les forces vives du pays, c'est nous, les travailleurs. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie, mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnault, les Bettencourt, les Michelin, les Peugeot, sans les salariés des hôtels de luxe, sans les conducteurs de train et les pilotes d'avion, sans leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux, leurs ateliers, leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune ? Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super-profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que ceci soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe capitaliste, minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires et avant les fortunes de cette minorité capitaliste. Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui louchent vers le Front National, eh bien il faut qu'il se manifeste dans cette élection. Il faut que le camp des travailleurs mette en avant ses intérêts, sa politique, son programme. Et le premier point de ce programme, eh bien c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat, et à sa suite tous les politiciens, prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois sans commandes assurées. Eh bien nous, salariés, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille, les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot et il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure de bon sens, eh bien, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez PSA, Peugeot Citroën. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards de profits chaque année et a supprimé aussi 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore aujourd'hui. Et c'est vrai dans quasiment toutes les banques, c'est vrai dans le secteur banque, dans le secteur des assurances, c'est vrai y compris dans le secteur des médias. Bon, alors oui, on peut dire que ces grands groupes capitalistes, ce sont aussi les plus grands fabricants de chômeurs. Et c'est la raison pour laquelle la première des choses, c'est de les empêcher de nuire. Mais je n'oublie pas non plus les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont concernés aussi par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces grands groupes et que les banques soient mises à contribution et payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici et là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible, immédiatement, en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé, mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Et il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant de vrais emplois, avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse de ce qui se passe dans quasiment tous ces grands groupes, avec ces fameux plans de compétitivité qui consistent à imposer des heures supplémentaires et des samedis travaillés obligatoires pendant qu'ils poussent des gens, dehors en pré-retraite. Si nous laissons faire ce grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs que l'on comptabilisera. C'est 7, 8, 9, 10 millions de chômeurs. Alors oui, il faut imposer des mesures contraignantes à ce grand patronat. Et puis, regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières, d'aides-soignants dans les hôpitaux ? Regardez l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessible à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs ? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société. Et donc, il y a autant d'emplois à créer en face. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Parce que j'insiste là-dessus. Mais le chômage, c'est le fléau. Le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, mais aussi il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un emploi et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée, donc, nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Et Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Non, si on veut une augmentation, il faut qu'on se la paye nous-mêmes. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que Le Pen dit qu'elle ne veut pas créer de difficultés au patronat. Mais les difficultés qu'ont les salariés, qu'ont les millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner, tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent, parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Eh bien, Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent, ce n'est pas notre cas. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, parfois davantage, 50 ou 100 euros pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Et puis, il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. Et c'est la catastrophe quand elle tombe en panne. Et c'est encore 400, 500 euros minimum qui partent dans la voiture. Et il faut... Par-dessus, après tout ça, il faut encore payer les impôts, l'impôt sur le revenu et puis la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec les enfants, c'est encore bien plus serré. Alors, 1 800 euros net, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, bien, je l'ai dit tout à l'heure, ils doivent être transformés en salaires parce que tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans cette société. Et ces 1 800 euros ne sont qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, est-ce que vous vous souvenez à combien était le SMIC ? Il y a 10 ans, le SMIC net était de 1 000 euros par mois. Aujourd'hui, il est de 1 150 euros. Il a augmenté donc en 10 ans de 15%. Savez-vous de combien ont augmenté les salaires des grands PDG en 10 ans ? Eh bien, de 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, de celles des loyers, des mutuelles, des péages d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité ou d'assurance avec celle de l'année précédente pour se rendre compte que tous les prix augmentent. En réalité, entre les salaires et les prix, il y a une espèce de course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. La société est riche, elle est très riche. Alors il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune, qui a été accumulée au détriment de générations de travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien la loi est faite pour les couvrir. Ici, dans la région, vous avez l'exemple de Madrange. Regardez ces mensonges pendant des années et des années. Et regardez encore aujourd'hui ce qui se passe quand les salariés veulent savoir quel sera leur sort demain. Ils ne peuvent même pas avoir accès aux vraies informations, y compris les délégués du personnel qui sont conviés à maintes et maintes réunions. Ils n'ont pas le droit de dire publiquement ce qu'ils apprennent dans ces réunions. Eh bien, c'est le secret des affaires que nous voulons lever. Prenez un autre exemple dans l'actualité. C'est le groupe Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf-Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins et que 2000 emplois sont sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué le groupe Vivart? Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas les salaires. Le gérant d'un magasin y était payé 1 400 € net par mois et l'ensemble des salariés tournaient autour du SMIC. Ce qui a tué Vivart, ce sont les fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe et qui ont forcé toutes les anciennes à emprunter auprès de qui, s'il vous plaît? Eh bien, de ces mêmes fonds capitalistes à des taux d'intérêt de 11, de 12%. Eh bien, si les salariés du groupe Vivart, mais exactement comme les ouvriers du groupe Madrange, avaient connu toutes les manœuvres financières qui se tramaient derrière leur dos, eh bien, ils auraient pu davantage anticiper. Ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et pour se défendre. De fait, les salariés savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG parce qu'elle le prépare, parce qu'elle le tape, parce qu'elle l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes les informations que nous avons, nous pouvons avoir le contrôle sur toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise et puis sur l'argent qui circule. Les patrons le savent et d'ailleurs ils le craignent. C'est la raison pour laquelle ils ont imposé ce secret des affaires. Eh bien, il faut revendiquer la levée de ce secret. Ce serait une mesure et un objectif essentiel, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir, ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales, et ils pourraient même prendre l'initiative pour défendre leurs intérêts. Et puis, bien sûr, en ayant accès aux véritables comptabilités de ces entreprises, eh bien, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Et puis on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui font la pluie et le beau temps sur l'économie. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins et c'est un programme de lutte. Oui, c'est le plus radical, parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte, nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation. Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Voter, ce n'est pas encore réellement agir et se battre. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis, et tout cela se forge dans le combat des idées, le combat politique. Et le premier tour de l'élection présidentielle nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie, en tout cas pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec tous les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des années, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Eh bien, le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts inconciliables et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassemblé de façon ponctuelle derrière un drapeau et d'élection en élection, de mouvements de grève en manifestation, eh bien cela participe de la construction du parti. Alors, votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable, de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1 300 €, et les vrais 35 heures. Eh bien, c'est loin, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? Parce que Mélenchon se veut responsable, parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. Parce que c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, en son temps, l'avait fait superbement. Souvenez-vous du discours du Bourget. Le problème, c'est qu'il faut dire si l'on est prêt ou pas à la renverser, la finance. Il faut dire si l'on est prêt ou pas à l'exproprier. Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. Les traités européens, la Ve République, mais pas la bourgeoisie et pas sa propriété privée sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris avec Dupont-Aignan et avec Le Pen, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant les traités européens et en sortant de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air, parce que les seuls souverains dans notre société, eh bien, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on est exploité, quand on appartient au monde du travail, ben on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république, ou qu'elles se décident à l'échelle européenne, quand on appartient au monde du travail, on est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire complet ou pas, qui a le pouvoir de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail, y compris quand on est étudiant. Comment choisit-on ses études? En fonction de ses envies, ses passions? Ben non, en fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Et puis, parler de souveraineté, c'est encore une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs français et la bourgeoisie française. C'est brouiller les consciences et c'est une façon de détourner les travailleurs de leur véritable combat, leur combat de classe. Alors laissons les mots d'ordre de souveraineté du peuple et de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Alors Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système, et parce qu'avec lui, ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, et en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribuer à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à l'affirmer, à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour porter sa candidature que pour le porter à la présidence de la République, eh bien notre campagne nous aidera, nous, à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Alors oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner. Nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les ouvriers et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et qu'elle pouvait s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit, une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire, parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de toute la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, sans doute le plus important, ce pouvoir a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela? Aucun. Et même si le stalinisme a fini par prendre le dessus, en déformant, en caricaturant et en trahissant ses aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, nous avons de quoi être fiers de ce que notre classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle. Il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement et à la haine de l'autre. Et il fait aussi le lit de cette délinquance et du fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, bien c'est la barbarie des murs, des barbelés, que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Sur cette question des frontières, les principaux candidats sont tous d'accord. Il faut des frontières toujours plus hautes, toujours plus étanches, nous disent-ils. Et tous de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. Et l'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie, par leurs manœuvres et leurs bombes. Ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas espérer la retraite à 60 ans. Alors, en tant qu'exploités, eh bien, nous devons avoir conscience que nous sommes tous des migrants potentiels et que ce n'est pas qu'une question de solidarité, c'est aussi une question d'intérêt collectif. Notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toutes nationalités, de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une seule politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors oui, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien ils représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales, mais aussi débarrassée du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Et puis, ils sont aussi les seuls à pouvoir mettre en place une société capable de résoudre les problèmes écologiques, car il en va de la préservation de l'environnement comme du reste. Tous les politiciens font des promesses, mais au pouvoir, ils sont bien incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ce sont toujours les capitalistes qui ont le dernier mot. Alors tant que l'on n'est pas résolu à combattre cette mainmise de la classe capitaliste qui ne jure que par ses profits, on peut parler de l'économie de la mer, des énergies renouvelables, mais on parle pour ne rien dire. Oui, les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer la concurrence et la course au profit. Ils illustrent la nécessité d'enlever à la bourgeoisie la direction de l'économie. Ils illustrent la nécessité de gérer collectivement les immenses moyens de production dont nous disposons et de les planifier en fonction des besoins de tous. Et cela, seuls les travailleurs peuvent le réaliser. Alors voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste, la perspective d'une société vraiment humaine. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Et aujourd'hui, on entend parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition, quasiment. Mais nous, nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont composés de rentiers ? Évidemment non. Ils sont composés de femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles, qui parfois sont confrontés au chômage. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient peut-être fiers d'être indépendants il y a un ou deux ans, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction des travailleurs qui étaient dans la rue mobilisés. Il y avait beaucoup de réserves dans les ateliers, dans les bureaux, dans toutes les entreprises. Eh bien, il faut que la classe ouvrière s'exprime aussi sur la scène politique. On nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un. Forcément, avec cette logique, il faut parier sur le tiercé de tête et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président de la République qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG qui aura pour mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour le choisir ? Eh bien, dans cette élection, c'est la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui fera reculer nos conditions de travail, nos conditions de vie. Eh bien, il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, à les départager. L'enjeu doit être d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Il faudrait recommencer avec un autre. Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire pour essayer de se protéger est également un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement, s'il ne renoue pas avec les luttes puissantes et avec toute l'histoire du mouvement ouvrier. Quant à s'abstenir, ce n'est pas non plus une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. C'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève ou de manifester, ou simplement de protester parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petit combat, il n'y a pas de petit geste. Quand on est minoritaire, la moindre voix compte et la moindre voix peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes, c'est vrai, à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de Lutte ouvrière et les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom. Mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne individuelle ou personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé quand on m'en donnera la possibilité. Une campagne médiatique comme celle-ci, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, eh bien, il y a plusieurs centaines de milliers de femmes et d'hommes qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement et puis de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions, et c'est déjà quelque chose de très important. Mais plus largement, au-delà de ceux que je pourrais toucher au travers des médias, eh bien, il y a aussi tous ceux qui sont perdus, qui s'interrogent. Il y a tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique ou de voter. Et ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot, et c'est vous qui pouvez les toucher, en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre et leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer ces idées parmi les nôtres est quelque chose de très important. Parce que nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés. Et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles pour que ce soit une bonne campagne. Il faut que ce soit une campagne militante. Il faut que ce soit notre campagne, il faut que ce soit votre campagne. Et pour conclure, un petit effort de projection dans l'avenir. Au lendemain de l'élection, en mai 2017, qu'est-ce qui aura changé pour nous ? Eh bien, nous irons au travail hein, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim et on se retrouvera confronté au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires, invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. Et on se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, pour nous, rien de fondamental n'aura changé, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social qui est dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui nous préparera le mieux aux luttes que forcément nous aurons à mener après mai 2017.